Et voilà pourquoi, finalement, je crois, on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce peuple-là. Ça veut dire qu'il y a entre nous une sorte de cohésion nécessaire. Elle n'est pas seulement, comme l'expliqueront certains sociologues, le fruit de persécutions vécues ensemble. Que les gens qui ont souffert ensemble se sentent, comme ils disent si joliment, une communauté de destin. C'est beaucoup plus profond que cela. Je crois que c'est carrément ontologique. Ça veut dire que ça répond à un niveau d'essence spirituelle. Ça veut dire que notre origine en tant que juif, elle a créé une sorte, non pas de destin commun, mais de véritable mission commune. Nous avons à assumer ensemble quelque chose. Et nous l'assumons quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si je ne veux pas, on me rendra responsable de ce que je n'ai pas fait. Quand dans la rue on me traite de sale juif, même quand j'ai rien fait, c'est pourquoi ? Peut-être que le gars qui m'insulte, lui, il a subi quelque chose d'un autre juif. Qu'est-ce que je peux faire ? Dire non ? Je crois vous avoir raconté, pardonnez-moi si je me répète, qu'à la demande des grands rabbins d'Israël, il y a quelques années, je me suis rendu en Égypte, à la tête d'une délégation de rabbins, pour essayer de solliciter du gouvernement égyptien qu'il ne fasse pas passer une autoroute au milieu du vieux cimetière juif, le plus grand et le plus vieux du monde, qui est dans la banlieue du Caire. Et donc notre mission consistait à leur dire, écoutez, essayez de trouver un nouveau tracé, et s'il n'y en a pas, on est prêts, tous les juifs du monde, à se cotiser pour faire passer une passerelle, pour ne pas déterrer les morts, pour ne pas profaner les tombes. Et nous avons eu le privilège d'être reçus furtivement par M. Moubarak, puis par le ministre de l'Habitat, et enfin par le gouverneur du Caire. Lorsque la délégation se présente chez lui, il nous écoute poliment 2 minutes, je formule la requête, et puis voilà que, pour toute réponse, il appelle l'un de ses secrétaires et il fait sortir un registre dans lequel il me montre un acte de vente du cimetière juif, un autre cimetière, vendu par la communauté karaïte de Caire à des commerçants, à une usine pour en faire quelque chose pour du business. Et en gros, son discours était le suivant, vous vous moquez de moi. Comment vous êtes là en train de plaider, à demander que quelque chose d'intérêt public, une autoroute, soit dévié pour respecter vos morts, alors que vous avez vendu, vous les Juifs, un cimetière pour y faire je ne sais quelle activité économique. Alors vous savez, j'aurais pu répondre, mes chers amis, que j'y suis pour rien. J'aurais pu répondre que les Karaïtes sont une secte qui plus ou moins se rapproche du judaïsme et que n'y s'identifie pas parfaitement à elle, dans son esprit à lui. Je savais que nous étions un seul peuple et j'ai voulu le conforter. Alors au lieu de me disculper, j'ai tout simplement dit « j'assume ». La grandeur de notre peuple, c'est même d'accepter les fautes qu'il n'a pas commises. Mes frères se sont trompés et j'accepte leurs fautes. Ce n'est pas pour autant qu'il faille les imiter. Et je lui ai dit « de toute façon, remuer les morts, ça ne porte pas bonheur. Vous ferez comme vous voudrez. Chletz. L'autoroute n'est toujours pas là-bas. D'accord ? Il a suffi que se souvenir que parfois certaines phrases peuvent peut-être évoquer des choses que d'autres argumentaires n'arrivent pas à démontrer. Et bon, Hachem, la mission a réussi, à la grâce de Dieu. En d'autres termes, on se rend compte que si on veut nous diviser en disant « mais vous faites ceci, vous faites cela », on ne réussira jamais. Ce peuple-là, sa vocation, son alliance, la Berit qui s'appelle Arevut, la bérite de Nitzavim, c'est celle qui consiste à rappeler que tout le monde est concerné partout. Alors ici, je me pose une question. Comment un juif peut refuser son judaïsme ? Comment certains peuvent avoir, j'allais dire, le front, regardez la Torah, elle a été écrite quand même il y a 3300 ans, rien ne s'était encore produit. Comment est-ce qu'elle peut imaginer qu'après avoir entendu cette alliance terrible de Kitavo, toutes ces, entre guillemets, malédictions, qu'il peut y avoir un homme qui va avoir le front de dire « Bishrirut li bielem, moi je m'en fous ». Mais comment il s'en fout ? Là, il y a quelque chose de pas normal. Et nos maîtres, ici, je cite notamment ce qu'explique un certain nombre de Chachamim et le Or Israël, commenté par le Rav Yitzhak Blazer, disait ainsi, il disait « Mais c'est quelque chose de surnaturel. Comment il peut dire « Veid barer, bilvavo, les morts ?» Il dit comme cela, imaginons un endroit où il y a 1000 bouteilles cachetées, et dans une d'entre elles, il y a un poison. Et on vous met un poison mortel. Il suffira d'en boire une goutte pour s'effondrer immédiatement. Est-ce que vous accepterez d'en boire ? Vous direz non. Moi, je n'ai pas envie de mourir et je ne veux pas courir le risque. Donc, si j'ai une probabilité d'un pour mille pour mourir, je préfère l'éviter. Et je n'irai pas. En d'autres termes, l'homme a peur, normalement. Alors, la Torah vient et nous dit, si vous n'écoutez pas mes commandements, tac, 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 98 malédictions. Est-ce qu'un homme qui réfléchit un peu ne pourrait pas se dire, après tout, si c'était vrai? Après tout, hypothèse, si Dieu existe, hypothèse si la Torah a été donnée par lui, hypothèse si elle disait vrai et que ceci se déroule. Ben non, il ne tient pas compte de cela. Et il va, cet homme-là, dire, non, moi je transgresse tout, je m'en fous de tout, je balaye tout d'un coup de revers de manche et ça ne me concerne pas. Comment un homme peut avoir, demandé ses haramim, quelque chose d'aussi puissant? Alors la base de tout, elle est très simple, et c'est la conclusion qu'en tirent nos maîtres et qui nous amènera vers la nôtre, à nous, c'est que tout simplement, ceci est le fruit d'une chose, garante de toute vie spirituelle, et qui s'appelle la liberté. Un homme doit rester libre. Pour qu'un homme reste libre, il faut qu'il ait la possibilité, entre guillemets, de désobéir. Avoir la possibilité de désobéir, c'est donc de choisir ce que l'on veut croire. Donc, on ne peut finalement ne pas avoir peur de ce texte de la Torah que si on a choisi de ne pas croire en Dieu. Donc ça veut dire qu'il est possible de croire puisqu'il est possible de ne pas croire. Et ses maîtres disaient, chaque fois que je vois quelqu'un qui n'est pas pieux, j'ai la preuve de la foi. Puisque lui a la possibilité de ne pas croire, c'est que moi, j'ai la possibilité de croire. Et finalement, on s'aperçoit que c'est les incroyants qui parfois conduisent au Créateur. Je peux croire parce qu'il y en a d'autres qui ne croient pas. Et cette logique même que dit d'ailleurs la Gemara de Souka est celle qui nous donne à nous finalement l'habitude que certaines choses... On s'est tellement habitué à certaines démarches qu'on a l'impression que le monde est divisé entre les croyants et les incroyants. Pour un croyant, le fait que les incroyants existent, c'est la preuve de la véracité de sa croyance. Et vous le savez bien. Or cette dimension-là, c'est celle que nous appelons en hébreu « arevut ». Et on peut pour cela peut-être simplement essayer de réaliser ce en quoi je voudrais que nous arrivions ce Rosh Hashanah. Lorsque la Torah s'exprime dans un des très beaux chapitres du Deutéronome, elle dit « Ve'ata Israël, ma Hashem elokei rachoal me'imach hayom »